Chers amis, bonjour. Cours numéro 157 sur les lois de la médisance. Ce cours est dédié à nos soldats tombés pendant la guerre en Israël. Nous avons parlé déjà des lois concernant l'enseignant. Vous savez, lorsqu'il a un rapport avec ses élèves, et parfois il y a ce qu'on appelle gilui sod, c'est-à-dire que des fois des élèves révèlent des informations confidentielles à leur professeur et ça pose un certain problème pour l'enseignant. Il arrive couramment qu'un enfant, surtout lorsqu'il est jeune, et ça on le voit, aime bien parler avec le professeur, et dit « oui, mes parents, ils ont dit telle chose, mes parents, ils ont fait telle chose ». Évidemment, ce sont des propos qu'il ne faut pas absolument pas dévoiler, en tout cas en public. Le professeur, en tous les cas, n'a en aucun droit de croire cette information si cette information est péjorative, négative, et qu'elle pourrait causer du tort, évidemment, à la famille, et surtout si elle venait donc d'être connue. Il est absolument évident, encore, que le professeur, et ça veut savoir, ne peut rapporter à d'autres cette information qu'a confiée l'enfant. Rapporter, effectivement, ces propos-là, que dit l'enfant aux parents, ça pourrait constituer malheureusement ce qu'on appelle la rechilut, c'est-à-dire que cela pourrait susciter une irritation contre lui, contre l'enfant. Les parents pourraient s'emporter contre l'enfant, ou alors ce qu'on appelle onat dvarim, c'est-à-dire un préjudice causé par la parole, et pourrait se retourner aussi contre l'enseignant. Dans certains cas, il pourrait néanmoins, et ça j'en suis témoin en tant qu'ancien enseignant, s'avérait bon de le faire pour que les parents, on va dire comme ça, puissent faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas recommencer. Souvent, l'enfant aime bien parler, aime bien dire, etc. Donc, parfois, on va voir les parents en disant, écoutez, essayez de dire à votre enfant qu'il évite de dire certaines choses personnelles de la maison. Cependant, si l'enfant rapporte une information alarmante, par exemple, et dans ce cas, l'intervention du professeur s'avère nécessaire dans un cas, par exemple, de mauvais traitement qu'il peut subir des parents ou de quelqu'un de la famille, il convient de faire donc une enquête et le cas échéant, contacter les autorités nécessaires pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Dans le cas où on a des élèves qui sont un peu plus âgés et qui vont confier des informations personnelles à leur enseignant, à leur maître, évidemment, on n'a pas le droit de les rapporter à d'autres. S'il veut demander maintenant l'avis d'un collègue ou d'un supérieur, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, il n'a pas le droit de révéler l'identité de l'élève. Il ne peut la révéler et lui confier que... voilà, dans le sens où on veut savoir exactement la halakha, si il y a un problème de trouble de comportement, de problème de maladie, par exemple chez l'enfant, on voit que c'est quelque chose de maladif, dans ce cas-là, on peut dire que tel enfant est informé, donc la direction, que tel enfant, en disant bien lequel, a ce problème-là. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les toelet, c'est dans le but de construire, dans le but d'aider cet enfant comme un avocat, comme on en a dit, ou comme un médecin. En tous les cas, il faut voir une autorité religieuse de façon générale pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Tana de Beliaou, il nous dit la chose suivante. Lorsqu'un homme arrive dans l'autre monde, on lui fait revoir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et c'est sur ces témoignages-là qu'on va, malheureusement, ou très bien, le juger. Représentons-nous un homme, par exemple, qui toute sa vie durant a assidûment étudié une page de Gemara, de Talmud, tous les jours, extraordinaire, et il s'attend à ce que, à sa mort, des milliers de pages qu'il a étudiées soient présentées devant le tribunal céleste. D'accord ? Et lui procure de grands mérites. Or, à sa grande honte, lorsque le moment arrive et que les livres sont ouverts, ils découvrent que chacune de leurs pages est couverte de ce qu'on appelle Ruach HaTuma, des esprits impurs. D'impureté, de saleté, de mépris à l'égard de quoi ? Du langage, des lois du langage. Alors, quelle sera sa désolation en voyant cette perte irréparable. Tout un livre qu'il a étudié, tout un livre qu'il aurait pu avoir de mérite, qui est détruit. Toute la fortune qu'il a si durement gagnée, il est anéanti par sa négligence, malheureusement, dans un domaine aussi vital que celui de la parole. C'est comme si quelqu'un faisait l'acquisition d'une très belle collection, imaginez, de livres, peu importe lesquels, d'une collection qui vaut très cher, superbement liée, enrichie dans l'enluminure dorée, peu importe. Après avoir reçu l'assurance du vendeur que l'intérieur des volumes est aussi beau que l'extérieur, il a payé de façon assez forte. Et puis, voilà que, à stupéfaction, lorsqu'il arrive chez lui, il ouvre les livres, il voit que tous les livres sont tachetés, sont salis. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'irréparable. Et il va essayer de contacter, effectivement, le vendeur. Et le vendeur a malheureusement disparu. Il en est de même pour celui qui ne sait pas garder sa langue. Même s'il étudie tout le Talmud à plusieurs reprises, pas un seul de ses traités ne sera là pour le défendre au jour du jugement, ça il faut le savoir. Leurs pages seront couvertes, toutes ces pages qu'il a étudiées, d'impuretés, de saletés, de repoussantes. N'oubliez pas ce que nous dit Chachamim. Le sage, il songe aux suites de ses actes. Il agit en conséquence. S'il est vrai que, comme dire le Shema, mais le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse, mais il y a un autre passage qui dit, il y a un autre verset qui dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Hachem. Donc pour s'assurer une bonne, on va dire comme ça, une bonne vie dans la vie future, il faut évidemment faire très attention à sa bouche. À bientôt.